RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Chaque semaine, vous le savez, nous partageons avec vous des coups de cœur, des livres, des expos, des films, des pièces de théâtre qui nous ont touchés, bouleversés, déplacés, en tout cas qui nous ont mis des paillettes dans les yeux. Et reconnaissons-le, le cinéma occupe une jolie place dans nos enthousiasmes. Et ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'une fois que les projecteurs se sont éteints, une fois que les spotlights de l'actu sont allés voir ailleurs, les films peuvent vivre une deuxième vie grâce aux plateformes de streaming. Alors bien sûr, un film sur son ordinateur avec un plateau repas en attendant la prochaine réunion, ce n'est pas l'idéal. On le dit et on le redit dans Effervescence, le cinéma c'est bon dans une salle obscure quand notre seule préoccupation vient de l'écran, que devant nous, les personnages plus grands que nous vivent leur vie comme si de rien n'était, sans téléphone portable ni alerte Facebook. Mais ne boudons pas notre plaisir, car on ne peut pas tout voir en salle et la vidéo à la demande permet aujourd'hui de regarder un bon nombre des films que nous avons ratés au cinéma. Alors, après de 10 jours de l'ouverture du Festival de Cannes, nous vous proposons dans cette émission de redécouvrir une sélection de films défendus par nos chroniqueurs, à voir en salle pour un petit nombre d'entre eux, mais surtout sur les plateformes de streaming en vidéo à la demande.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Et une émission où l'on retrouvera dans le désordre Ingrid Blanchard, François Huguenin, Guillaume Goubert, Laurent Grezalmer, Delphine Fraissinet et Laetitia Forgeau-Darc. Et donc voilà, c'est parti. Effervescence fait son cinéma avec une sélection de films à voir et à revoir.
J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble.
Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur.
Je respecte énormément le métier de journaliste.
Et tu crois que c'est quoi mon métier ?
Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Et on commence avec du grand cinéma dans Effervescence, Xavier Giannoli qui s'empare des Illusions perdues, le chef-d'œuvre de Balzac. C'est votre coup de cœur cette semaine, Ingrid Blanchard.
Et oui, on sent toute l'effervescence dans cette bande-annonce, je trouve, Stéphanie. Alors oui, décidément, Balzac est à l'honneur cet automne sur les planches comme au cinéma, avec les sorties quasi simultanées dans les salles d'Eugénie Grandet de Marc Duguin et des Illusions perdues de Xavier Giannoli. Et l'adaptation dont nous parlait David dans notre dernière effervescence en commun, par Pauline Bail sur les planches. Alors Pauline Bail, elle a choisi l'épure et le minimalisme, là où Giannoli signe un film spectacle, une grande fresque grandiose, tourbillonnante, portée par un casting de choix. On retrouve dans ce film, vous les avez entendus, Vincent Lacoste, Cécile de France n'y était pas, mais voilà, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, Xavier Dolan et le jeune Benjamin Voisin dans le rôle principal. Alors j'avoue Stéphanie que je suis toujours un peu méfiante quand je vais voir l'adaptation au cinéma des grands classiques. J'ai toujours un peu peur des excès, que ce soit une fidélité un peu trop rigoureuse ou une trahison de l'œuvre. Mais ici, avec le film de Giannoli, on est pas dans l'illustration, on est dans une véritable réorchestration de l'œuvre de Balzac qui donne toute sa place aux émotions et aux idées. Alors peut-être rappeler un petit peu l'histoire,
ouais, c'est ce que j'avais
rapidement
demandé.
Le pitch de cette histoire des Illusions perdues. On est sous la Restauration. L'histoire, c'est celle de Lucien, un jeune poète de 20 ans qui quitte sa province pour Paris avec son premier recueil de poèmes en poche et des rêves de littérature. Il a de grandes ambitions, ce Lucien, et pour survivre, il cède à la tentation du journaliste journalisme sous l'aile de Lousteau, interprété brillamment par Vincent Lacoste, qui est un journaliste, vous l'avez entendu, sans aucune moralité. Et là, Lucien découvre une presse totalement corrompue où les profits et le cynisme font la loi. Alors, je pense à une scène jubilatoire du film où Lucien, qui est encore novice, qui arrive fraîchement de sa province, doit faire le procès d'un livre qu'il a pourtant aimé. Et Lousteau lui explique comment s'y prendre. Il lui dit « C'est juste une façon d'esprit à prendre. Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est larmoyant. S'il est léger, tu dis qu'il est frivole. S'il propose des idées, il manque de chair. S'il a un style classique, il est académique. » Voilà, donc c'est un film dans lequel Giannoli décrit la naissance des groupes de presse, de la pub, de la corruption et des conflits d'intérêts, l'avènement finalement du libéralisme effréné. On sent avec la naissance de ces journaux l'annonce des réseaux sociaux et des fake news d'aujourd'hui. Et puis ce jeune Lucien, bien sûr, comme Icare, il va se brûler les ailes et on assiste à la fois à son ascension et à sa chute. Alors Giannoli, il tient ce film surtout par une mise en scène complètement virevoltante, un style haletant et tourbillonnant, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, mais le rythme est extrêmement soutenu du début à la fin. Le film dure quand même 2h30, mais on n'a jamais la sensation de longueur. C'est vraiment, je trouve, un film qui dépoussière totalement le film de genre en costume, et puis qui est porté par un casting d'une grande intelligence. Benjamin Voisin, pour ceux qui ont vu un film dans lequel il a été révélé, qui était 85 de François Ozon, qui était sorti en 2020, était déjà assez époustouflant. Et là, il donne au personnage de Lucien une certaine grâce, une arrogance et une grande mélancolie. Bref, c'est un vrai coup de cœur, ce film. C'est un grand, grand film qui est à la fois cruel, mais tout à fait virevoltant. Et à mon avis, c'est le meilleur film de Xavier Giannoli à ce jour.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Il y a des films qui, sans être des chefs-d'œuvre, marquent une époque. Celui-ci n'est même pas sorti en salle. Don't Look Up ou Le Déni Cosmique est une production Netflix. Mais à l'heure d'une élection présidentielle où l'urgence climatique n'a pas réussi à émerger comme une priorité du débat, il est bon de voir ou de revoir cette métaphore du déni climatique.
Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver.
J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
Nous avons découvert une très grosse comète.
Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
Qu'on patiente et qu'on avise ?
On patiente.
Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise.
C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent.
On fait quoi? Il faut qu'on sorte l'information.
On l'a fait fuiter.
Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace.
Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible?
Il y a 100% de chance qu'on crève tous! Je suis désolée.
Kate! Kate.
Ok.
L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr.
C'est moins sûr.
Voilà, Don't Look Up. Alors, ne vous laissez pas avoir par ces airs de farce un peu grossière. Delphine, vous avez regardé ce film sur Netflix et c'est bien plus sérieux, bien plus profond que ça en a l'air.
Bah oui, parce que finalement, des scientifiques qui préviennent les dirigeants que ça va être la fin du monde de façon imminente et les dirigeants ne font rien. Ça nous parle quand même un petit peu, non? La métaphore de la crise climatique. D'ailleurs, dans le film, on voit des images d'ours polaires, de baleines, d'abeilles, des espèces en voie d'extinction, hein, qui viennent souligner la métaphore si elle nous avait échappé. Alors, le film n'est pas post-apocalyptique, mais pré-apocalyptique. Ça, c'est nouveau. Et la satire, elle fonctionne, elle est puissante parce que finalement, c'est pas un film tourné comme un blockbuster type Armageddon où Bruce Willis arrive avec ses muscles et sauve le monde. Ici, Leonardo DiCaprio, donc, qui joue l'un des deux astrophysiciens qui alerte du danger, bah, il n'a rien d'un bravache, hein. Il est pas ultra courageux, bien musclé. Il est plutôt timoré. timoré, il est anxieux, dépressif, il est terne, au début en tout cas. Et c'est une farce, c'est une satire qui force tellement le trait de la caricature qu'à la fois c'est un peu angoissant et surtout hilarant. C'est un petit peu un mix entre un vrai faux suspense et avec l'humour de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» ou « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» Vous voyez, hein, les films avec Leslie Nielsen. Voilà, il faut le prendre pour ce que c'est un divertissement, c'est vrai, mais qui est beaucoup plus sérieux et qui dénonce à tout va et bien les travers de notre société aujourd'hui, de toutes nos sociétés. Le cynisme, la volonté de simplifier à tout prix une société qui est dominée quand même par l'image, la communication, les réseaux sociaux surpuissants, les politiques en prennent pour leur grade. Meryl Streep, elle est la présidente, c'est quand même un mix entre Sarah Palin, vous vous souvenez, hein, l'ex-gouverneur d'Alaska, l'égérie du Tea Party américaine qui chassait l'ours et le caribou, et Donald Trump. Enfin voilà, et tout ce qui illustre en fait cette farce, une farce dramatique vu le sujet, c'est la musique aussi qui est là, qui est gay, qui est punchy. Les médias non plus ne sont pas épargnés, c'est surtout le règne de l'audience. Et puis tous les acteurs effectivement en font un peu...
brochette de star,
parce que Jennifer Lawrence, et qui elle en plus a vraiment les meilleurs punchlines quoi. Enfin, on parle quand même d'une tueuse de planète de 9 kilomètres, pas de frais d'itinérance. Elle est vraiment excellente. DiCaprio, je l'ai dit, Meryl Streep, Kate Blanchett, enfin, il y a aussi Timothée Chalamet et Mark Rylance aussi, qui est un gourou illuminé de secte high-tech. C'est très drôle. Mais il y a quand même... On apprend aussi quelque chose, hein, parce que le bureau de coordination de la défense planétaire, ça existe vraiment. Ouais. C'est un bureau de la NASA, d'ailleurs. Ouais.
Bon, là encore, Valérie, vous êtes un peu mitigée sur Don't Look Up.
Alors, j'ai vraiment regardé avec beaucoup de plaisir, parce que c'est très brillant, c'est virtuose, le jeu des acteurs est vraiment exceptionnel. Mais voilà, c'est vrai que ça a un petit côté un peu trop américain pour ma sensibilité, mais c'est assez époustouflant quand même.
Don't Look Up, le déni cosmique, c'est à voir sur Netflix, particulièrement en ce moment. Le cinéma a cette capacité de ressusciter des heures glorieuses ou tragiques. L'événement en ce début d'année 2022, c'est le film de Jean-Jacques Haneau sur l'incendie de Notre-Dame. 3 ans après le drame qui a marqué le monde entier, le réalisateur de L'Ours et de La Guerre du Feu nous offre une reconstitution minutieuse de l'incendie de la cathédrale parisienne.
Activation EMO, posture immédiate, anticipation feu Notre-Dame.
Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout, les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer.
Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué.
Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance.
Poursuivons reconnaissance, c'est pas bon.
Ça va? Alors on y va.
Ça veut dire désastre annoncé.
Voilà, Notre-Dame brûle, film de Jean-Jacques Haneau, sorti au cinéma ce mercredi. Laetitia, c'était une évidence, hein, vous deviez aller voir ce film ?
Oui, tout à fait, mais notamment grâce à vous Stéphanie, ou en tout cas grâce à Effervescence, parce que voilà, un film de Jean-Jacques Haneau, c'est toujours attendu, et je me suis dit il faut pouvoir en parler, nos auditeurs vont avoir envie d'y aller, et j'ai envie d'avoir mon petit avis sur la question. Ça c'est la première raison. La seconde, c'était aussi en mémoire du nom de la rose, en fait. Moi je fais partie des 5 millions de Français qui sont allés le voir il y a 36 ans, je crois. Et ça m'a marqué. Et puis, évidemment, en mémoire du 15 avril 2019, hein, je sais pas, là, si on se demande les uns aux autres, est-ce qu'on se souvient de là où on était quand on a vu sur nos smartphones, à la télé, enfin, quand on a vu ces images, cette fumée noire, quoi, qui s'est élevée de l'île de la Cité, on était sidérés. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'aller le voir. Voilà.
Tout est vrai dans ce qu'on voit? C'est une reconstitution exacte?
Alors, c'est intéressant votre question. Est-ce que tout est vrai? Alors, ça faisait partie des questionnements que j'avais en tête avant d'y aller. Je me suis dit, mais bon, est-ce que c'est un documentaire? Est-ce qu'en fait, il a récupéré des vraies images ou il a reconstitué? Voilà. La question du vrai, elle s'impose dès les premières images. Et ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est ce qu'a dit Jean-Jacques Haneau à propos de cet enchaînement de dysfonctionnements. Il a parlé de cascade de dysfonctionnements quand on connaît l'histoire vraie de l'incendie de Notre-Dame. Cette cascade de dysfonctionnements, en fait, la vérité est invraisemblable. C'est-à-dire que tout a concouru à faire de cet événement quelque chose qui est devenu une catastrophe. Ça va de l'oubli d'un trousseau de clés à des pigeons qui vont picorer un câble qui du coup va produire un court-circuit, à des couloirs qui sont très étroits, à un enchaînement de circonstances qui fait que parfois et même souvent l'alarme incendie s'est déjà déclenchée, donc on ne va pas prendre au sérieux le premier déclenchement de l'alarme d'incendie. Tout est incroyable, et pourtant c'est vrai, ça n'est pas un film. Donc, comment dire, c'est comme si finalement Jean-Jacques Hano n'a pas été obligé d'inventer des choses, en fait. La réalité était déjà invraisemblable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette reconstitution, elle est complètement ébouriffante. Je crois qu'il y a à peu près 10% des images de ce film qui proviennent d'images d'archives, alors soit des drones de la gendarmerie nationale, soit des images qui ont été prises par des passants, en fait, des badauds, énormément. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, 10% de l'ensemble du film. Mais il a joué aussi la carte d'un réalisme reconstitué. C'est-à-dire qu'il a, à partir de 3 cathédrales en France, hein, je crois que c'est Sens, Bourges et Amiens, il a tourné des scènes dans une cathédrale, mais qui n'est pas celle de Paris, puisqu'elle n'est pas accessible. Et puis, il s'est servi aussi, en fait, des studios de la Cité du cinéma et de Brie-sur-Marne pour reconstituer intégralement, par exemple, l'effondrement partiel de la voûte. Bon, alors, c'est vrai ou c'est faux? Je veux dire, quand vous êtes dans votre fauteuil, vous voyez la voûte s'effondrer. En fait, c'est vrai ce qui se passe. C'est des vraies flammes, c'est un vrai effondrement. Alors, voilà, je crois qu'il a eu le droit qu'à une prise, mais elle était bonne. Voilà, donc le vrai et le faux se mêlent. C'est absolument
sidérant. Mais c'est un documentaire.
En fait. Alors, c'est un documentaire au sens où il a fait un véritable travail de fourmi, un travail de, je sais pas, je vais les comparer, un travail de journaliste ou de fourmi, voilà. Tous les personnages qui sont présents, il les a rencontrés, il les connaît, et c'est intéressant de savoir que là, ces derniers jours vient de sortir les résultats de l'enquête criminelle, qui atteste que ça n'est pas un acte criminel, hein, c'est un double hasard. Effectivement, un court-circuit d'une part et un mégot de cigarette tombé d'un échafaudage à cause du chantier qui était en place. Donc tout ça, c'est dit. Et tel que je le raconte, on peut penser à un documentaire. Mais c'est tout sauf ça, en fait. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on regarde ce film, alors qu'on connaît pertinemment la fin, on est dans un état de tension et de suspense extrême? On est attaché, on tremble avec ces pompiers qui traversent les flammes en se disant « mais c'est extraordinaire ce qui se passe là, c'est magnifique ». Donc non, ça n'est pas un documentaire. C'est un film d'âme, de feu, de... J'irais même jusqu'à dire qu'il y a certains questionnements qui sont proposés lorsqu'on voit tout ce qui a été déployé comme courage, comme argent aussi, par ces hommes qui ont véritablement risqué leur vie, notamment pour aller sauver la relique de la couronne d'épines du Christ qui se trouvait dans le cœur. On sent planer des points de suspension, en fait, de Jean-Jacques Hano. Donc c'est beaucoup plus qu'un documentaire.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Dans Effervescence, on continue de remonter le temps grâce au cinéma, avec le film À plein temps. Le contexte, ce sont le grève de 1995, mais ce qu'il nous montre de la vie des gens n'a pas pris une ride et fait écho au quotidien de nombreux Français et Françaises.
Maman ?
Ouais ?
Tu connais le jardin d'acclimatation ?
Ouais.
On pourra y aller un jour ?
Écoute, on verra.
La circulation vers Paris est interrompue.
Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution.
Vous allez manifester aujourd'hui?
J'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris.
C'est dur ça.
On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches. C'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée.
J'ai un entretien.
Pour un boulot?
Un bon boulot? Un super bon boulot.
Tu joues avec le feu, Julie.
Et avec les retards, en plus, ça arrange rien.
Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile.
Je vais te laisser mon badge et tu vas le valider en même temps que le tien.
Mais ça, je suis pas sûre.
En raison d'un mouvement social.
Il y a un train qui va partir, là.
Quelle voie?
Voie 14.
François, la bande-annonce donne la chair de poule, oui. Ça s'appelle À plein temps, c'est un film signé Éric Gravel, on est pendant les grèves de 95.
C'est 1h25, donc c'est un film relativement court, et honnêtement, il y a longtemps que je n'avais pas été presque en apnée de la première image à la dernière, parce que c'est à la fois un film, en fait c'est une sorte de thriller social, l'histoire de cette... jeune femme qui élève toute seule ses deux enfants avec un mari qui brille par son absence et qui répond même pas au coup de téléphone et qui oublie de verser la pension alimentaire. Ça doit rappeler peut-être certaines choses à certaines personnes. Et c'est très juste. Cette femme habite loin de Paris parce qu'elle a essayé de trouver un endroit un peu sympathique pour vivre avec ses enfants. Elle doit bosser, elle est première femme de chambre dans un grand palace parisien et c'est la course. Et en plus, cette course, elle arrive en plein dans les grèves de transport. Et tout le film repose sur cet argument tout simple qui est le fait que cette femme a enfin la proposition pour un job qui correspond à son niveau d'études.
À plein temps.
À plein temps. Va-t-elle y arriver ou pas? Je vous raconterai pas. Mais c'est un... Vraiment, c'était, on est, vous disiez que vous aviez la chair de poule, mais moi, en parlant, je suis encore très ému par ces images parce que on est avec elle, on est dans cette angoisse, dans cette course dont on ne sait pas si elle va aboutir à quelque chose. On frémit avec elle, on a envie de hurler tellement cette vie est insupportable. Et le courage de cette femme, cette manière qu'elle a de tout donner pour réussir son objectif, de tout donner aussi pour ses enfants.
Ça forge l'admiration
et j'ai envie de dire, je ne veux pas du tout être démagogique, hein, mais j'espère que beaucoup d'hommes et de femmes politiques verront ce film. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de Français qui vivent comme ça. C'est pas du tout un film misérabiliste, absolument pas. Est-ce que ça, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est un film qui a une justesse de ton jusqu'à la dernière scène, qui est absolument prodigieuse, qui montre l'état dans lequel nous sommes dans la société aujourd'hui, de désagrégation de notre société d'un
c'était
point de vue social.
Il y a plus de 30 ans, mais
c'est aujourd'hui. Tout, non, mais c'est, voilà. C'est aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un film qui est en fait un film d'aujourd'hui. Et en réalité, on voit la désagrégation sociale, mais ce qui est particulièrement juste, c'est qu'on le voit par le biais d'une personne, cette femme, et que cette femme, elle c'est une actrice exceptionnelle et qu'elle joue de manière éblouissante, sans rien de trop.
Voilà. C'est l'heure qu'elle a mis. Hein.
C'est l'heure qu'elle a mis, qui est parfaite. C'est-à-dire que je vois pas comment on peut mieux jouer un rôle comme ça. Elle est parfaite en mère de famille, elle est parfaite en femme qui veut décrocher un job, elle est parfaite en femme de chambre qui doit nettoyer au Karcher la merde des riches, comme elle dit. Voilà, elle est parfaite partout, et c'est un grand hommage aux femmes aussi.
Et après, à plein temps, je vous propose une autre chronique sociale sortie au cinéma en ce début d'année. Un autre monde est signé Stéphane Brisé et c'est une plongée glaçante dans le monde de l'entreprise.
Monsieur a déjà accepté le divorce. On ne peut pas du coup tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter.
C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer.
Elle vous a dit que moi je lui faisais vivre un enfer?
À l'époque, j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça le deal.
On me demande de me séparer de 58 personnes. Et là, tu m'en donnes 30. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58.
On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente?
Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde? Un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire?
Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre, ni de réfléchir.
Je voulais vous rassurer par rapport à votre fils. On va le garder quelques jours pour comprendre ce qui s'est passé. Il a insulté son professeur, mais il l'a aussi menacé avec un compas.
Je flippe pour après, je sais pas ce qui va m'arriver après, je sais pas.
Ça fait 8 jours que je vous demande de plancher là-dessus. Moi, j'ai rendez-vous avec la direction générale, j'ai un retour à faire, j'ai rien.
Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçue par votre manière de procéder.
Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs.
Alors moi, je dépends du groupe Elson. Je suis mariée avec Elson, moi.
Voilà, c'est un peu oppressant quand on entend ça, Laurent Grosheimer. Et moi, je vous vois sourire en même temps. Ça vous fait rire, ça?
Oui, d'une certaine manière, parce que c'est l'exemple même de la bande-annonce.
Ce qui en fait trop?
Très bien faite. Très bien faite. Et pourquoi très bien faite? Eh bien, parce qu'on peut la voir des dizaines de fois, mais ça masque en fait j'allais dire presque le sujet du film et en tout cas ses rebondissements. Donc quand on va aller voir le film, ce qui a été mon cas, eh bien finalement on découvre quelque chose d'autre, mais la bande-annonce n'est pas du tout une trahison. je trouve ça bien. C'est-à-dire que tous les rebondissements du film sont préservés. C'est un scénario très bien tricoté.
Donc ça tricote entre une vie professionnelle très compliquée, une pression immense, et en même temps une vie personnelle qui s'effiloche.
C'est très bien dit. Je dirais que moi, il y a trois sujets effectivement qui sont tissés ensemble. Il y a une critique du capitalisme, il y a un regard sur la famille aussi très important, et puis un regard sur un enfant qui pète un plomb, qui part vers la folie, ce qu'on appelle communément la folie. Il y a donc tout ça, mais en réalité, tout ça peut se recentrer. C'est un homme et comment l'homme se déchire, en gros. Le sujet du film, c'est ça. C'est comment les êtres humains se déchirent entre eux, se déchirent parfois tout seuls, et comment les événements agissent sur eux et peuvent les abîmer. Ce qui est très bien, en réalité, c'est que tout se termine une sorte de happy end, mais pas du tout un happy end à l'américaine niais ou niaiseux. Ça se termine bien parce que le scénario, justement, arrive à dépasser toutes ces contradictions.
Donc c'est pas un feel good, mais on en ressort apaisé?
Disons qu'on n'en ressort pas déprimé. Je dirais que c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un très bon film, c'est un film intéressant. Ça fait partie de ces... Maintenant, on a quand même en France, comme en Grande-Bretagne, je dirais, des films à caractère social qui plongent dans notre société, qui essayent d'analyser son fonctionnement. Ça fait partie de ces films qui sont donc parfois avec une mise en scène un petit peu appuyée, avec des effets un peu soulignés. Mais pour finir, je voudrais surtout souligner le jeu des acteurs qui est fabuleux. Il y a, bon, bien sûr, Vincent Lindon...
Qui porte le film ?
Oui, mais auquel on croit complètement. Il arrive à porter ce costume du patron, on y croit complètement. Je dirais que Sandrine Kiberlin est merveilleuse. Là aussi, elle arrive à établir une complicité avec le spectateur. Elle arrive, on y croit complètement. Et Léa Drucker est pas mal du tout en Big Boss.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Le 21 février dernier, c'était la cérémonie des Césars, un événement attendu par le grand public comme par les professionnels de la profession. Je ne vais pas vous refaire ici le palmarès annoncé lors de la soirée, juste évoquer un film un peu déjanté sorti en septembre dernier et qui, ici, je dois le reconnaître, nous avait un peu échappé. Annette, la comédie musicale de Léo Scarrax, qui a obtenu le César de la meilleure musique, une musique composée par les Sparks, un groupe de rock américain des années 70. On écoute le titre phare.
We love each other so much. We love each other so much. Scoffing at logic, this wasn't the plan. We love each other so much.
We love each other so much. We love each other.
Counterintuitive, baby, and yet we remain.
we love each other so much. We love each other so much. So much. So much. So much.
We love each other so much. Extrait de la comédie musicale de Léos Carax, Annette, et un morceau de musique signé Les Sparks.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Les films de Pablo Almodovar, le réalisateur espagnol, sont toujours des événements. Madres Paralelas, le dernier, a fait couler beaucoup d'encre et pas forcément l'unanimité hein, chez nous. Laurent Grésheimer était plutôt mitigé et Ingrid Blanchard, elle, était des plus enthousiastes. Elle commence par revenir sur l'histoire de ces mères parallèles.
L'histoire, c'est celle de Janice, qui est interprétée par Penélope Cruz, qui est photographe de presse, et qui tombe enceinte d'Arturo, qui est un brillant anthropologue judiciaire. Et à la clinique, alors qu'elle s'apprête à accoucher, elle fait la connaissance d'Anna, qui est toute jeune, à peine sortie de l'adolescence, et absolument terrorisée à l'idée d'être mère. Alors Janice, elle joue un petit peu le rôle de grande sœur, et ces deux femmes accouchent le même jour, elles sympathisent, elles deviennent mères parallèlement, d'où le titre, mais ne savent pas alors que leur destin va être lié au-delà de cette rencontre. Et vous l'avez dit, cette petite histoire s'inscrit dans la grande, puisqu'en parallèle de cette histoire de maternité, l'intrigue se joue à un second niveau, sur fond de drame historique, car Arturo, donc l'anthropologue, participe au travail de l'ouverture des fosses communes où s'entassent les morts anonymes du franquisme. Et grâce à ce travail, il pourrait permettre à Janice d'honorer la promesse qu'elle a faite à sa grand-mère d'exhumer le corps de son père et de lui offrir une sépulture digne. Alors, pour tous les amoureux d'Almodovar, vraiment, on retrouve les constantes de son cinéma, à commencer bien sûr par ses actrices fétiches, Penélope Cruz, qui joue ici le rôle principal, et Rossi de Palma, qui interprète sa meilleure amie. C'est d'ailleurs sa 7e collaboration à Penélope Cruz avec Pedro Almodovar, et elle a été récompensée pour ce film par le prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise, à juste titre, parce qu'elle joue vraiment un rôle qui, j'écoutais Almodovar dans un interview, il disait c'est vraiment le rôle le plus difficile qui lui est donné parce qu'il est extrêmement éloigné de la personnalité de Penélope Cruz. Elle y joue une femme à la fois touchante, libre, fragile et forte à la fois, et écartelée entre sa quête de vérité et le terrible secret qui la ronge. Donc elle est vraiment exceptionnelle. Et puis j'aimerais saluer aussi l'interprétation d'Anna Milena Smith, cette jeune actrice qui a un petit peu la beauté froide et mystérieuse d'une actrice comme Marina Vatch, qu'on avait découverte dans ce film de François Ozon, Jeune et Jolie, et qui, par son interprétation, renforce l'intensité de l'intrigue. Alors, on sent vraiment tout l'amour d'Almodovar pour ces actrices qu'il arrive véritablement à sublimer. D'ailleurs, les hommes n'ont pas beaucoup part à ce film puisqu'ils y sont vraiment absents et ils se caractérisent par leur absence. Les femmes, donc, dans ce film, sont vraiment les poussées les unes vers les autres, dans une forme de sororité qui s'exprime tout au long du film. Et puis, on retrouve la beauté des décors visuels d'Almodovar, les couleurs, les
donc,
costumes.
Donc, sans hésiter, Ingrid, il faut aller voir Madres Paralelas, c'est ça?
Oui, il faut y aller. Je crois que c'est vraiment un film qui mêle la fresque intime et la grande histoire. Et puis peut-être un point qui le distingue un petit peu des autres films d'Almodovar, c'est parce que Pedro Almodovar offre ici un film qui est assez sobre et complexe, très éloigné du style exubérant et flamboyant auquel il nous a habitués, comme dans des films dans Femme au bord de la crise de nerfs, par exemple, ou Talon aiguille. Et je crois que ça dénote, en tout cas, ça montre ici la puissance d'un grand réalisateur, en fait, qui arrive encore à se renouveler et à trouver des inspirations nouvelles. Enfin, voilà, moi, je n'ai aucune réserve sur ce film.
Thank you. Voilà quelques notes de la musique de Madres Paralelas, signée Almodovar.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
François Guinin, on continue à parler cinéma avec vous, avec un film qui lui aussi aborde un sujet grave, mais sur un ton beaucoup moins léger. On écoute la bande-annonce.
Tu connais notre situation. La femme de mon père va être saisie. On voudrait la reprendre avec Bruno, mais on a besoin d'aide. Tu vas où ?
Bosser.
Qu'est-ce qui se passe ?
Liquidation judiciaire.
Cette terre, c'est chez moi. Elle sortira pas de la famille. Allez, pars-toi maintenant.
Tu vas me tirer dessus ?
Faut que tu montes un dossier solide. Et si tu me l'envoies, moi, je vais bien regarder.
C'est vrai, tu serais d'accord ?
Lot numéro 3.
Sylvain me dit beaucoup de bien de vous. Vous pouvez compter sur mon soutien.
Merci.
Mais de rien, tu le mérites.
Ce sera votre parole contre la sienne. Vos proches vont être interrogés. Ça va durer longtemps. Hein.
Je sais pas à quoi ça sert de se battre là si tout le monde est contre nous.
Qu'est-ce qui s'est passé chez Monsieur Rousseau ?
Qu'est-ce qui s'est passé chez moi ? Bah vas-y, dis-lui, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est pas ce que tu crois, je te jure.
C'est quoi alors ?
Constance ! Constance !
Si c'était vrai, tu m'en aurais parlé, non ?
Attends, tu crois que j'invente là ?
T'as pensé à sa famille ? Sa femme, ses gosses.
Tu vas pas m'accuser moi aussi ?
Lâche-moi !
60 euros ! Qui dit mieux ? Allez, 70 !
C'est pas un monde pour vous, vous voyez bien.
Allez. Je vous emmerde.
Tu voulais jouer ? Bah, ça y est, on y est.
Voilà, et on frissonne rien qu'à l'écoute de cette bande-annonce. Le film, c'est La Terre des Hommes, François. Je crois que vous avez été très marqué par ce film. Vous nous racontez un peu l'histoire, même si on devine un peu de quoi il s'agit.
Alors, on devine oui et non, parce qu'il y a deux thèmes dans ce film, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense qu'une des grandes qualités du film, c'est que ces deux thèmes sont, à mon sens, remarquablement tissés. Le premier thème, c'est une histoire... je dirais sociale, de ce monde paysan qui est si difficile à vivre. Constance est l'héroïne du film, jouée par Diane Rouxel. Elle est fille d'agriculteur et avec son fiancé, ils veulent reprendre l'exploitation de son père et il va falloir aller travailler avec ceux qui tiennent les cordons de la bourse, ceux qui font la pluie et le beau temps, notamment dans un organisme qu'on appelle la SAFER, qui est très influent dans les politiques agricoles locales. Et donc ça, c'est le thème, je dirais, la base continue de cette histoire. Et puis, à un moment donné, le film bascule dans une autre histoire, puisque dans cette relation que Constance a avec beaucoup d'hommes, hein, ce sont les hommes qui ont le pouvoir dans cette histoire, elle va se retrouver avec justement un membre influent de la SAFER qui va la violer. Et c'est là où l'histoire bascule, parce que on est vraiment dans un des film après Me Too. Je crois que le réalisateur Naël Marandin montre très bien toutes les étapes de cette horreur qui est la violence sexuelle faite aux femmes. D'abord, il y a le fait que ce n'est jamais si simple. Et on voit bien, lorsqu'elle est interrogée par la gendarmerie, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple de dire non. Ce n'est pas si simple non plus de montrer qu'on a absolument dit non, pas voulu. En fait, la charge de la preuve retombe sur la victime. Et puis, ce n'est pas si simple, évidemment, dans un monde masculin, que de faire admettre cela, dans un monde où les enjeux de pouvoir sont immenses. Et donc, il y a une justesse vraiment dans ce film, dans cette manière de montrer ce qu'est une violence sexuelle faite à une femme. Et le personnage de Constance, Diane Rouxel, est extraordinaire de maîtrise, et je dirais, et surtout, elle montre bien par son jeu que rien n'est simple et qu'elle est prise dans un étau, qu'elle est prise dans quelque chose qui est un piège dont elle a énormément de mal à sortir. Et là où je trouve que le film est exceptionnel, c'est que cette histoire sociale, hein, de reprise d'une entreprise, où cette jeune paysanne se retrouve face à un monde masculin, et cette histoire intime qui lui arrive, sont véritablement mêlées d'une façon très juste, jusqu'au point où, et je ne regrette pas la fin du film, on se demande même si, au fond, le personnage de Constance fait le vrai bon choix par rapport à la parole qu'elle peut avoir par rapport à ce qui lui est arrivé. en matière de viol. Donc, en fait, rien n'est simple jusqu'au bout, et c'est la grande force de ce film, c'est de montrer que jusqu'au bout, tout est ambigu.
François, ce film La Terre des Hommes n'est plus en salle actuellement, mais on en parle, c'est son actualité, parce qu'il vient d'obtenir le prix Croire au cinéma. C'est la deuxième édition de ce prix. Vous étiez comme moi-même membre du jury de l'édition précédente, la première. Est-ce que vous comprenez le choix du jury de cette deuxième édition ?
Ah oui, je le comprends. J'avais vu la liste des films. J'aurais eu beaucoup de mal à me départager moi-même entre La Terre des Hommes et Les Deux Alfred. Mais je comprends tout à fait parce que c'est un film humaniste. Voilà. Mais ce n'est pas un film moralisant, ce n'est pas un film pétri de bons sentiments. Non, c'est un film qui montre la patte humaine dans ce qu'elle peut avoir parfois de dégueulasse. Mais dans ce cas-là aussi, parfois, d'ambigu, de qui sait, d'ombre et de lumière. J'aime bien cette expression, comme vous le savez. Et c'est en cela, je pense, que ce film mérite amplement, me semble-t-il, d'avoir eu ce prix Croire au cinéma, qui n'est pas un prix qui récompense des films trempés dans l'eau bénite.
On a bien compris ça. Valérie Magnac, allez, on peut le dire, c'est vous qui êtes une des organisatrices de ce prix. Vous avez donc vu ce film très rapidement, un mot sur La Terre des Hommes.
Peut-être une autre dimension encore du film qui justifie ce prix, c'est le rapport à la nature, le respect de la nature, des animaux et tout l'aspect générationnel dans ce monde paysan, de ces jeunes agriculteurs qui veulent un peu rompre avec la course au gigantisme et à l'industrialisation de l'élevage, là en l'occurrence, pour retrouver ce lien-là.
Vraiment, je vous encourage à regarder ce film. C'est un film dur, un film coup de poing. Hein. La Terre des Hommes, c'est signé Noël Marandin. C'est vraiment un sujet rare, mais traité avec beaucoup de finesse et de délicatesse. Autre film important maintenant dans Effervescence, un film porteur de valeurs qui nous sont chères sur RCF. L'inclusion, la fraternité, mais surtout, surtout, la joie.
Moi, si je pouvais aller coller mes fesses sur une île déserte, j'hésiterais pas une seconde.
Si tu veux aller croupir sur une île déserte, t'es pas heureux ?
Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive.
Vous faites quoi dans la vie ?
En général, quand je le dis, ça jette un froid.
Moi, j'ai rien besoin de dire pour que ça jette un froid. Vous êtes contents ?
Qu'est-ce que vous foutez là ?
Je voulais faire une expérience métaphysique.
Je vais vous larguer comme ça en pleine nature ?
Mais y a pas de problème. Tout va bien. Je vous dérangerai plus. On est tous embarqués comme dans un train. On ne sait pas où on va. On ignore tout de la destination et on est à bord.
C'est votre frère ?
Non, c'est mon ami.
Moi, le regard ton prix, je m'en prends !
Moi, je trouve que t'as l'air normal. Ça se voit pas.
Presque.
Voilà, presque, ce film qui est actuellement sur les écrans et qui vous a séduit, Delphine.
Bah oui, il y a des films comme ça hein, qui devraient être remboursés par la Sécu tellement ils nous font du bien au moral et presque fait vraiment partie de cela. C'est vrai que c'est cette rencontre improbable entre deux hommes blessés par la vie de façon différente, enfermés dans leur solitude, elle nous touche, elle nous transporte. C'est un voyage initiatique et philosophique. On plonge avec eux, mais sans avoir envie de les quitter, puisque Alexandre Jolien, on va rappeler ce philosophe écrivain suisse hein, qui est né infirme, moteur cérébral. Donc lui, il cite ses amis, le personnage d'Igor qu'il interprète, ses seuls amis sont Socrate, Spinoza, Nietzsche. Il frôle seulement les autres, hein, il a quasiment rien connu, la sensualité, du sexe, de l'amitié. Bernard Campan qui joue donc le croque-mort, hein, lui a supprimé toute vie sociale, il s'est coupé des gens. Alors c'est vrai que c'est un film qui aborde le regard sur le handicap, sur les personnes atteintes de handicap, mais surtout sur la manière dont ceux qui sont censés s'en occuper en spécialiste les traitent. Et ce qui est important, c'est que ces deux-là, ils vont s'apprivoiser sans qu'on sache lequel apporte le plus à l'autre. Il y a aucun tabou dans ce film, il y a aucun cynisme, il y a surtout aucune bien-pensance, mais surtout, tout est, enfin, l'écriture est d'une finesse, d'une légèreté, d'une drôlerie, parce qu'on se marre, franchement, déjà rien que c'est mon premier voyage en corbillard. Hein. Je vous rassure, ça sera pas le dernier. Voilà. On explose de rire et franchement, des éclats de rire, y ont des vrais dans lesquels on s'abandonne. On en a souvent devant ce film. En fait, c'est un film qui est tellement beau, qui est tellement euphorisant qu'il faut vraiment rien dévoiler pour laisser l'effet de surprise. Je veux juste dire quand même qu'il y a dans ce film l'une des plus belles, l'une des plus délicates et bouleversantes scènes d'amour du cinéma. C'est un film qui parle de la mort. Elle est omniprésente, mais il nous rend furieusement vivants. Et puis, on pourrait dire aussi que s'il y a des terminales qui nous écoutent et qui se prennent la tête hein, avec Platon, Aristote, Montaigne, allez voir ce film. Igor, il les cite à tout bout de champ, mais il le fait de façon tellement naturelle qu'on comprend tout. Moi, ça me donnerait presque envie de repasser le bac philo. J'ai dit presque.
Non, presque. Oui, presque. Valérie, je crois que vous avez beaucoup aimé le film également.
Oui, oui, c'est vraiment un très beau film. Juste dire peut-être que Bernard Campan et Alexandre Jolien sont amis eux-mêmes dans la vie depuis 18 ans et qu'ils ont mis 10 ans à écrire ensemble et que ça a aussi nourri leur amitié, qu'ils échangent beaucoup à propos de même de spiritualité. Enfin, on n'est pas dans la comédie habituelle, juste d'un duo un peu dépareillé.
C'est pas intouchable ou du huitième jour.
Alors non, c'est différent effectivement et on sent vraiment toute cette complicité là, on la sent vraiment à l'écran et du coup ça rend le film très très vrai.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Changement de style maintenant avec vous Delphine, hein. Une autre formidable histoire, c'est une histoire d'amour que vous allez nous raconter, une histoire d'amour entre deux personnes que tout oppose, nous sommes en Angleterre. Delphine, vous nous présentez Ali et Ava?
Oui, ben là aussi Stéphanie, il n'y a pas de misérabilisme, puisque si je vous dis que les héros sont des quadras, donc Ali, anglo-pakistanais, qui est séparé de sa femme, bien qu'ils vivent tous les deux sous le même toit, et Ava, une femme qui est assistante scolaire, fière de ses origines irlandaises, elle élève seule ses quatre enfants, dans la banlieue post-industrielle d'une ville du nord de l'Angleterre, là comme ça, vous vous dites, ouais, c'est pas forcément glamour ou folichon, et pourtant, eh ben, c'est vraiment le film Ali et Ava le plus énergisant, le plus feel-good que j'ai vu récemment.
On écoute la bande-annonce et on en reparle juste après.
You into music?
Yeah, I like country music, me.
Oh, that's it then. I'll pull up, shall I? No, you must like something else.
I like folk.
Folk? Fucking hell, it's getting worse. Kids of your own?
Yeah, I've got four.
Four? Bloody hell. Who's that?
He's a friend.
A fella?
Three, two,
one, go. Go.
On le comprend un peu dans la bande-annonce, c'est pas forcément évident comme rencontre.
Ah non, c'est pas forcément évident. Et puis, on a commencé par la musique. Et effectivement, la musique est importante puisqu'elle va cimenter leur relation. Ali, lui, ne jure que par le punk rock et la techno. Et Ava, elle préfère la country et le folk. Hein. Bon, déjà, la musique les oppose, mais leur milieu social et surtout leur famille les oppose. Hein. Ali, je l'ai dit, il vit avec sa femme dont il est séparé, sous le même toit. Donc, c'est très compliqué. Mais surtout, il veut rien dire à sa famille, hein, qui n'est pas au courant de la séparation. Et donc Ava, elle vit avec trois de ses enfants et le plus grand, Kaloum, lui-même a un bébé, donc la copine et le bébé vivent aussi chez Ava. Et Kaloum, il a hérité du tempérament violent et raciste, hein, surtout de son père, hein, et c'est pour ça que ça va très mal se passer, la rencontre avec Ali. Et c'est vrai que Ava et Ali, ils se rencontrent par hasard. Et c'est d'abord une relation amicale qui débute et une relation qui va s'intensifier, qui va s'approfondir au fil des confidences. La musique va les faire grandir et se découvrir aussi l'un l'autre. Et ce qui est beau, ce qui est vraiment touchant dans ces personnages, c'est qu'ils sont un petit peu gauches, ils sont timides hein, dans leurs gestes de séduction. Il y a cette phrase notamment de Ava qui dit à un moment « Je suis une idiote d'avoir cru que je pourrais lui plaire ». Et ben ça, c'est la phrase qui dit toute la fragilité, le manque de confiance et l'espoir malgré tout que toutes les femmes quel que soit l'âge, ont pu avoir à un moment en amour deux adultes cabossés qui sont comme deux ados finalement, hein, qui sont sidérés de se découvrir l'un l'autre. Bah, c'est beau, c'est touchant, c'est stimulant, c'est merveilleux. Il y a des scènes magnifiques, notamment la scène d'ouverture où Ali danse tout seul sur le toit de sa voiture, et puis une autre scène aussi où il ramène Ava en voiture dans son quartier où il se fait caillasser par les enfants, et ben il retourne la situation. Enfin voilà, j'ai parlé de films énergisants et feel good, et j'emploie bien le terme feel good, moi qui aime pas du tout les romans feel good. Hein. Mon roman feel good à moi, c'est Ahmed Altan, hein. Je ne reverrai plus le monde, il a été écrit en prison, par exemple. Voilà. Donc Ali et Ava, franchement, allez le voir.
Et pour terminer cette sélection, je vous propose un coup de cœur, un film survitaminé qui va vous faire à la fois rire et à la fois pleurer. Ça s'appelle Rosie, c'est tourné au téléphone portable par Marine Barnérias. On l'écoute se raconter dans la bande-annonce et ensuite c'est David Groison qui nous en parle.
C'était en 2015. Ma vue, elle commence à diminuer. Je rentre dans une phase de déni énorme. Je n'ai pas la maladie où il y a le plus de handicap en France. C'est pas possible. Sclérose en plaques. Je peux perdre l'usage d'un bras, d'une jambe ou encore perdre la vue. C'était fou. Je suis partie sans traitement. Pas pour fuir la maladie, pas pour fuir la médecine. Je savais que mon corps me disait juste pas maintenant. Pas maintenant. J'avais envie de me retrouver, d'unir ce corps et cet esprit. Ça sera 9 mois de voyage.
On est au deuxième jour. Allez.
Là, je suis pas sereine.
Je suis pas du tout une aventurière. Mais j'avais un objectif. Ressentir.
Alors cette jeune femme, notez bien aussi, elle s'appelle Marine Barnérias. Le film, c'est Rosie. David, c'est qui Rosie?
Ah, faut pas le dire.
Faut pas le dire?
Non, parce que ça fait partie des moments de bascule du film. Ce qu'on peut dire de Marine, bah, on l'entend là dans la bande-annonce, c'est-à-dire c'est une force en mouvement. C'est une jeune fille qui a tout. Elle a 20 ans, elle est belle, elle a un petit copain, elle a des parents aimants, une sœur aimante. Elle fait des choix d'études, elle est en école de commerce et on sent la battante école de commerce, etc. Et effectivement, un jour, elle dans une fête étudiante, d'un coup, elle a un voile noir qui passe devant les yeux, elle s'écroule. Et elle pense que elle sait pas trop ce que c'est. Et puis, effectivement, on lui diagnostique une sclérose en plaques. Et d'un coup, en mode un peu école de commerce, elle dit, bah, en fait, du coup, je fais un plan d'attaque, je vais faire un financement participatif, je vais partir à l'autre bout du monde pour alors même dans sa façon de choisir les pays, il y a un côté un peu hors sol, quoi. On se dit, ah bon, mais c'est fou. Elle dit la Nouvelle-Zélande parce qu'il y aura plus de moutons que d'habitants, et d'un coup là je vais pouvoir être peinarde en Birmanie parce que je pourrais faire de la méditation et faire une cure de silence. Et puis le troisième pays, elle dit, je vais aller en Mongolie parce que là je vais traverser l'immensité à cheval et je vais ressentir mon corps. Et donc elle a cette idée qu'elle veut rejoindre son corps, son esprit, son âme. Et puis, en fait, l'intuition s'avère juste. C'est-à-dire que c'est vraiment ce voyage-là. C'est pas un voyage à l'autre bout du monde, en fait. C'est un voyage à la rencontre d'elle-même. Et c'est pour ça que cette histoire, elle parle à chacun d'entre nous. C'est-à-dire comment on sait qui on est, vraiment. Comment on sait ce qui nous tient vraiment à cœur, de quoi on est constitué, de quel bois on est fait. Et elle documente tout ça avec son téléphone portable. Donc, c'est une image qui bouge un peu, qui est très, très amateur. Il y a cette musique qu'on entend de Mathieu Chédid,
ouais, voilà.
De M, avec ce petit sifflement qui est aussi un peu la petite voix intérieure de Marine à certains moments. Et tout ce chemin, elle est extrêmement authentique. C'est vraiment le film de cette nouvelle génération. Elle a 20 ans, elle se filme tout le temps au téléphone portable. Donc même quand elle fait une cure de silence, de méditation, pendant 10 jours, elle doit plus dire un mot. Bah, elle se filme en train de pleurer, en train d'être à deux doigts de craquer. Elle est au moment où elle est sous la tente en Nouvelle-Zélande, il y a le vent, qui va arracher la tente, etc. On se dit, oh là là, mais si c'était ma fille, 20 ans à l'autre bout du monde, sur une route paumée, etc. On est inquiet pour elle, etc. Mais du coup, voilà, on fait tout ce chemin avec elle, on pleure, mais j'ai pleuré plein de fois, c'est-à-dire il y a plein de moments où on pleure, etc. Et en même temps, on en sort avec une force de vie et de joie qui fait que c'est un film qui effectivement donne une patate d'enfer. Parce qu'elle a cette force communicative, parce que d'un coup, elle nous oblige de nous recentrer sur l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est un petit film qui avait pas beaucoup de chance, etc. Bah, en fait, en deuxième semaine, il a plus de salles qu'en première.
Et donc,
en troisième, etc. Il y a un bouche à oreille extraordinaire qui fait que, voilà, si vous connaissez des gens qui l'ont vu, ils vont vous tanner en disant, mais vas-y, va voir Rosie, parce que c'est un film qui, effectivement, donne envie de se partager.
Et voilà, c'est terminé pour cette émission Effervescence fait son cinéma. Mon impatience, c'est bien sûr de vous retrouver en direct avec les chroniqueurs. Ça sera pour la semaine prochaine. Merci à Pierre Samanos qui, une fois encore, a fait des merveilles pour la réalisation de cette émission. Et puis bien sûr, hein, une citation pour la route. Elle est signée Jacques Tati. Le cinéma, c'est un stylo, du papier et des heures à observer le monde et les gens. Très très bon week-end à tous.